Frères et sœurs, les amis, depuis déjà plusieurs dimanches, nous sommes dans la vigne, nous travaillons dans la vigne. Tant la première lecture du livre d'Isaïe que l'Évangile nous parlent à nouveau de la vigne. Alors, la première lecture chez Isaïe, le propriétaire est en même temps le vigneron. La vigne représente le peuple d'Israël, du reste, le texte d'Isaïe le dit très clairement. Une vigne qui est entourée de soins, mais extrêmement décevante, et qui ne donnait que de mauvais fruits. Dans la parabole de Jésus, le propriétaire n'est pas le vigneron. Il n'exploite pas directement sa vigne, il la confie à d'autres vignerons. Il la donna, nous dit le texte, en fermage à des vignerons et partit en voyage. Alors, cette vigne qui représente Israël, comme chez Isaïe, où les vignerons sont les chefs des prêtres et des pharisiens. Ils avaient la charge de la vigne, la charge aussi, bien sûr, du peuple d'Israël, et ils l'ont mal guidée, puisqu'ils l'ont maltraitée. Donc là, s'il y a derrière ce texte, eh bien, toute la maltraitance à l'égard des prophètes. Pensons ici au prophète Jérémie, entre autres. Et en définitive, à force de maltraiter les prophètes, on en est arrivé à maltraiter, et même plus que ça, rejeter le Fils bien-aimé du Père. Donc, on voit là aussi que ça va de déception en déception. Le deuxième point de cette méditation, c'est de bien comprendre, c'est une autre hypothèse de lecture, que la vigne représente le royaume de Dieu. Et les vignerons sont le peuple d'Israël tout entier qui en avait reçu la charge. Oui, une fois de plus, comme du reste les textes de dimanche dernier, il s'agit dans ces paraboles, entendues depuis plusieurs dimanches, du royaume de Dieu. Avec ici une phrase terrible que je vous redis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Donc on peut imaginer, entre guillemets, sinon la colère, tout au moins l'impatience de Dieu à l'égard de son royaume, puisqu'il envisage de le retirer aux intéressés et de le donner à un peuple, bien sûr étranger, qui lui fera produire du fruit. Alors, il ne faut pas en conclure trop hâtivement que le peuple d'Israël en serait rejeté. Du reste, c'est une question qui a empoisonné le dialogue entre juifs et chrétiens depuis 20 siècles et à laquelle s'affrontait déjà, ne l'oublions pas, douloureusement, l'apôtre saint Paul, notamment dans l'Épître aux Romains. Mais pourquoi? Il ne faut pas imaginer que le peuple juif est retiré de cette vigne, puisque, comme le rappellera aussi saint Paul, Dieu ne peut pas se renier lui-même, il ne peut pas avoir donné quelque chose, le reprendre comme ça, sans qu'il y ait des raisons, mais nous savons très bien que la miséricorde l'emporte sur toute espèce de raison et de raisonnement. Ensuite, il ne faut jamais oublier qu'une parabole n'est jamais un verdict, jamais une sentence, comme une sorte de procès qui tomberait sur les uns ou sur les autres, ou sur cette terre d'Israël, mais au contraire, c'est un appel à la conversion. Nous retrouvons ce que nous avions dit l'autre dimanche, c'est un appel à la conversion également dans cette parabole. Oui, nous sentons également que le temps presse puisque nous sommes à la veille de la Passion. Il ne faut jamais perdre de vue que le souhait constant de Jésus au travers de toutes ces paraboles, c'est de sauver les hommes et non de les condamner. Hein? Donc, on voit bien dans cette parabole qu'il y a une tentative de la part du Seigneur pour alerter les pharisiens, même si ces paroles peuvent nous paraître un peu sévères ou constituées dans une lecture rapide à une sorte de jugement définitif. Oui, en aucun cas il ne s'agit d'un jugement définitif. D'ailleurs, en réfléchissant, l'annonce la plus importante n'est pas que le royaume de Dieu ou que ce royaume en question leur soit enlevé. Ce qui compte en vérité, c'est que malgré les obstacles dressés par les hommes, le royaume produise son fruit. Ce n'est pas le vigneron qui compte, en définitive, c'est le raisin. Voilà, semble-t-il, une des leçons de cette parabole. Mais c'est Jésus lui-même qui nous donne la clé de lecture de cette parabole. Et je cite, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire ou la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. » Donc, nous voyons bien que il y a de manière très sous-jacente, certes, l'annonce ici de sa résurrection. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même la pierre rejetée qui deviendra la clé de voûte de l'édifice qu'est l'Église. Et en fait, le nouveau peuple, ce sera tous ceux et celles qui se rassembleront autour de lui, quelle que soit leur origine, et nul n'est exclu. Tous les vignerons sont englobés dans la phrase de Jésus sur la croix, ne l'oublions pas, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, on sent bien que, effectivement, les paraboles sont faites non pas pour porter un jugement définitif sur tel ou tel acte qu'ont posé les individus, mais un appel puissant à la conversion. Cette conversion qui va trouver son point d'orgue ou son point culminant dans le fait que le Christ va donner sa vie pour nous racheter. Et donc, dans ce rachat, le Christ ne pratique pas la carte scolaire en évinçant certains et en accueillant d'autres. Hein, le salut, il est proposé à l'universalité, à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Et donc, que nul n'est exclu. Encore faut-il que, à la fois, les vignerons soient dignes du fruit que portera la vigne, mais la vigne portera du fruit que si les vignerons ou le propriétaire de la vigne, à savoir dans la parabole le Seigneur, Dieu lui-même, quels que puissent être les obstacles, puisse en vérité porter du fruit et un fruit qui demeure. Amen.